Bonjour et bienvenue au tout premier épisode du crossover du balado cybercitoyen et polysécure. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam et Nicolas Loïc. Bonjour à vous deux.
Salut. Donc,
aujourd'hui, on a un format un peu expérimental, une première fois, ensemble. Ben, en fait, on a déjà été sur le même balado ensemble plus qu'une fois, mais dans un format un peu plus là, où est-ce qu'on décide d'aborder l'actualité qui va toucher la vie privée, technologie, cybersécurité ensemble. Avec espoir que ça devienne quelque chose de routinier qu'on refait dans le futur. Et donc, oui. Est-ce qu'on se plonge directement dans le premier sujet? Parfait. C'est dur, en fait, d'être sur l'Internet dans les dernières semaines puis d'éviter, en fait, le premier sujet d'actualité qu'on a décidé de couvrir avec vous aujourd'hui. C'est toute la situation qui entoure le fameux DOGE, donc le ministère gouvernement de l'efficacité qui est... dont Elon Musk est à la tête. Beaucoup de contenu qui sort, puis c'est un peu ce qu'on observait, on en discutait un peu pré-épisode, justement qu'il y a tellement de choses à suivre sur le sujet que c'est dur, en fait, de centrer sur qu'est-ce qu'on devrait mettre l'attention, parce qu'on est bombardé, en fait. On dirait qu'à chaque jour, si c'est pas à chaque heure, il y a une nouvelle catastrophe potentielle qui émane de Doge. Je t'inviterais, en fait, Nicolas Loïc, peut-être nous mentionner, toi, qu'est-ce qui t'a accroché le plus dans les dernières semaines, disons, par rapport à ce qui se passe au niveau de Doge?
Ouais, je te rejoins sur le fait que c'est difficile à suivre. Puis derrière, tous les volets de scandales qui sont associés à ça, je ne me suis pas intéressé pour le moment, puisque je crois qu'il y a, plusieurs ballons qui vont se dégonfler à travers le temps, et je pense que juste l'effet de scandale est plus important que la vérité à travers ça, que j'attends de voir. Moi, l'aspect qui me préoccupe beaucoup avec ce qui s'est passé, puis ça a l'air d'avoir été arrêté relativement maintenant avec des injonctions, différents éléments, différents outils judiciaires qui ont permis de ralentir les travaux, c'est qu'ils mettent des jeunes personnes peu expérimentées, qui sont supposément très bons en technologie, mais peu expérimentées. Donc, et de les mettre dans des systèmes très complexes, des systèmes très anciens à certains égards. Sam me faisait référence qu'il y avait du COBOL là-dedans et ça ne m'étonne même pas. Donc, c'est des systèmes qui sont dans des paradigmes de développement différents et des systèmes d'une très grande complexité et qui contiennent, surtout aux États-Unis, beaucoup d'informations sensibles, notamment sur les juges, leurs adresses, tous les agents de renseignement, tous les agents du FBI, tout le monde, tout le monde qui est payé d'une façon ou d'une autre, puis que souvent qui ont des rôles très importants ou qu'on doit préserver leur confidentialité, de leur information, leur vie privée, se retrouvent dans ces systèmes-là. Et en général, les systèmes sont normés avec des normes, avec des enquêtes de sécurité préalables que les gens, avant de toucher à ces informations-là, tout changement est fait par deux personnes tout le temps pour éviter la fraude, justement. Tout est surveillé, tout est vraiment bien fait. C'est des systèmes qui ont été montés avec des processus qui ont été montés de façon bien pensée. L'inspecteur general qui doivent justement surveiller, s'assure que les gens respectent les règles, que tout est bien fait. Puis là, on met une gang, je vais être stéréotypé, une gang de jeunes hommes un peu énervés qui viennent de sortir de l'université et qui pensent qu'ils savent tout comment fonctionne la vie dans un système comme ça. Bon, on l'a vu déjà, il y a eu un certain nombre de problèmes. Ils ont un non-respect des protocoles qui sont faites au niveau de la protection des renseignements, donc ils envoient des informations dites confidentielles sur des réseaux non protégés. Déjà là, c'est des fautes qui sont assez importantes pour les gens qui sont habitués de travailler dans des environnements de réseaux protégés. Donc, les poils doivent leur lever ses bras de façon monumentale. J'imagine qu'à l'heure actuelle, il va y avoir des agents d'infiltration américains qui doivent être très nerveux que leur nom soit découvert et que leur information soit découverte. Donc, ils sont en train de déstabiliser un système assez critique aux États-Unis pour des préoccupations qui sont, à mon sens, un peu farfelues, qui auraient pu être adressées de façon différente, de façon par les voies normales, utiliser justement l'audit interne, utiliser d'autres structures qui sont à leur disposition, à laquelle il aurait pu arriver des choses comme ça d'une façon plus propre. On n'a pas besoin de le faire en deux semaines. C'est pas des choses qui mènent qu'une urgence nationale à ce que ça se fasse dans ce genre de choses-là. Je trouve que on brise tout pour peu de gains au total, contrairement dans un contexte de start-up où on construit quelque chose de nouveau. Là, il faut que ça se brise vite, le plus vite possible pour le détecter. Ben là, on n'est pas dans le concept. Là, on a une maison stable, une maison centenaire dans laquelle on veut mettre des choses trop modernes dedans qui vont briser le fonctionnement de ça. Là.
C'est comme un bulldozer dans une shop de porcelaine, en fait, carrément. Ouais. On parlait de, il y a beaucoup de systèmes qui ont été accédés. Là. J'avais une liste que j'avais commencé à monter. Alors, l'espace de quelques semaines, là, juste pour donner un scope un peu de ce que c'est, on a les dossiers des employés fédéraux, les données de paiement gouvernemental du département du Trésor, information des bénéficiaires des prêts étudiants du département d'éducation, toutes les données qui concernent les victimes des catastrophes là, qui sont gérées par FEMA, plus des données par rapport au domaine de l'emploi, le département en fait qui gère l'emploi aux États-Unis. Potentiellement, en ce moment, au moment qu'on enregistre, il y avait de la pression sur l'IRS, en fait, pour que Doge puisse accéder à ces données-là qui sont extrêmement sensibles par rapport au dossier des contribuables américains. Fait que c'est quand même beaucoup de données en quelques semaines.
Si on voit, tu sais, ils ont monté un peu sur le fly un site web là, pour justement faire le suivi de toutes les coupures qu'ils faisaient. C'est un peu drôle, mais c'est quand même symptomatique un petit peu, je pense, du problème sous-jacent. C'est que ce site web-là, 404 Media, qui ont sorti que ben, la base de données n'était pas sécurisée. Donc, n'importe qui pouvait publier n'importe quoi sur ce site web-là. Puis, il y a même quelqu'un qui a publié sur le site web, lol, n'importe qui peut écrire ce qu'il veut sur ce site web. Puis là, ça apparaissait là sur le site. C'est pas super rassurant quand tu dis que c'est la même personne qui a aussi là, accès à toutes ces données-là. Puis, je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'avant de te mettre à couper ou à jouer dans les... Tu sais, parce que les systèmes informatiques sont là pour appuyer le travail d'un gouvernement. Fait que c'est peut-être une bonne idée de savoir un peu c'est quoi que fait le gouvernement avant de te mettre comme à tirer sur des fils puis à arracher des câbles. En tout cas.
Oui, l'intention, c'est de garder le gouvernement fonctionnel.
C'est un peu le but d'avoir un gouvernement, d'avoir un élément de service aux citoyens, ces éléments-là. Puis c'est facile de critiquer le gouvernement qui est inefficace, ces éléments comme ça. Mais en même temps, quand on rentre dedans, on peut pas rentrer comme on voit là. Là, on a une démonstration réelle de gens qui n'ont pas la connaissance du système, qui rentrent de façon sauvage en pensant qu'ils savent mieux que les autres comment ça fonctionne. Au lieu de prendre un temps de recul. Puis je suis toujours d'accord avec le fait qu'on peut contester le fait que le gouvernement n'est pas toujours efficace. On a besoin de le brasser une fois de temps en temps, justement, pour ramener de l'efficacité ou ramener des éléments comme ça qui se perdent avec le temps. Mais entre ça puis brûler la maison, je trouve qu'il y a une marge quand même entre les deux. On pourrait ne pas brûler la maison puis quand même augmenter l'efficacité des agences gouvernementales américaines. Comme on peut le faire à travers le monde d'ailleurs aussi, là, c'est le même combat un peu partout. Sauf que là, on a une démonstration de manque de contrôle dans l'exécution. Et encore là, moi, en ce sens, je suis content de ne pas être américain, puis je plains les Américains, que toutes leurs données, tu sais, on privées et largement touchées par des gens avec aucun scrupule sur la manipulation de ces informations-là, avec aucun savoir-faire, ne font pas attention, ils font rien. Fait que là, c'est toutes mes données, c'est-à-dire que toutes mes données fiscales, toutes les données que le gouvernement pourrait avoir sur moi sont accessibles à des gens qui n'ont pas l'encadrement qu'on pourrait s'attendre de gens qui touchent à ce genre de données-là. Donc, il faut être prudent dans ces démarches-là.
Je lisais sur un avis d'une personne en cybersécurité, puis il mentionnait, en fait, il avait décrit ce qui se passait en ce moment comme étant potentiellement une des plus grandes menaces internes jamais connu par le gouvernement américain. Dans cette situation-là, Elon Musk étant la personne principale de cette menace interne-là. Puis, une des citations qui m'avait frappée, là, bien entendu, c'est une traduction très lousse de l'article qui est en anglais. Mais ce que la personne disait, c'était que l'aspect le plus alarmant, c'était pas seulement l'accès qui avait été accordé, mais le démantèlement systématique des mesures de sécurité qui permettraient de détecter et prévenir les abus, y compris les protocoles standards de réponse aux incidents, les audits, les mécanismes de suivi des modifications, tout ça en écartant les fonctionnaires de carrière responsables de ces mesures de sécurité et en les remplaçant par des opérateurs inexpérimentés. Je pense que ça résume de façon très éloquente, en fait, ce que tu nous dis là aujourd'hui, justement, cette mesure-là où est-ce qu'on enlève des gens d'expérience, on enlève des protocoles, on enlève des processus, puis on remplace ça par quelque chose qui essentiellement pourrait peut-être mener à la catastrophe, là.
Totalement. Puis il ne faut pas oublier que la cybersécurité est un domaine qui est quand même assez jeune et qui est un appui de connaissances qu'on bâtit. Comme l'ingénierie est un appui de connaissances et d'expérience qui s'est faite avec sur des centaines d'années, bien, la cybersécurité est en train de construire sur le même genre de choses. Donc, les contrôles qui étaient en place dans les différentes agences américaines qui ont été déployées ont été construits avec le temps, avec l'expérience, avec des ratés dans le passé, justement pour arriver à un système qui est peut-être imparfait maintenant, mais meilleur que qu'est-ce qu'il y a déjà été. Donc, ça s'est toujours amélioré. Puis là, on balance tout sans prendre aucunement de cette expérience-là. Puis bâtir, peut-être bâtir quelque chose de mieux, mais là, de toute apparence, on n'est pas dans un contexte où on bâtit mieux, on fait juste détruire. On est vraiment sur un contexte perçu de terre brûlée. On pense qu'on est capable de faire mieux ce que les autres nous ont précédé. Donc, on détruit tout et on fait mieux. Et ça, c'est ça pour l'accumulation de connaissances, c'est pas très bon. L'expérience, l'histoire nous montre que c'est pas comme ça qu'on est capable de faire avancer quoi que ce soit en recommençant constamment. Je déteste réinventer la roue. Je suis le premier à m'appuyer sur la connaissance et les recherches de gens plus brillants que moi, justement, pour aller plus loin. Parce que je peux pas aller loin si je réinvente la roue à chaque fois que je veux faire quelque chose. Si on réinvente toute la roue, personne n'ira loin, là.
Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Que le gouvernement peut faire en ce moment, que les citoyens peuvent faire selon vous pour arrêter, interrompre?
Je pense qu'il y a une grosse partie de la réponse qui doit être dans la rue ou en tout cas dans la mobilisation des différents, de la société civile. Une chose quand même que, une action qui était quand même un peu inspirante, c'est lorsqu'il y a eu l'espèce d'appel à supprimer des sites web. Plein de pages de sites web là, qui avaient été supprimées. Il y a quand même des gens qui se sont mis à archiver des données, qui se sont comme un peu coordonnées. À un moment donné, je voyais des Google Forms qui circulaient là, pour justement essayer de coordonner cet archivage-là. Et que ça, c'est quand même quelque chose de lueur d'espoir qu'on peut voir, là, qu'on voit qu'il y a quand même des gens qui s'organisent. Puis il y a quand même eu, tu sais, il commence à avoir une certaine mobilisation aussi contre ces excès-là. En tout cas, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines.
Il y a des poursuites également, oui.
Oui, les poursuites le sont, mais dans un contexte où on a un gouvernement qui a un peu de respect aux institutions, clairement, parce que les gestes qui sont posés sont de cette nature-là, sans avoir un certain non-respect du système judiciaire également. Donc, on est plus dans un contexte qui est beaucoup plus sensible aux pressions du peuple. Ou pression de la bourse. Fait que c'est essentiellement ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le président notamment est très, très sensible quand la Wall Street va réagir négativement ou quand il y a une pression très forte ou un geste qui est très impopulaire. Donc, de montrer publiquement que c'est impopulaire est probablement une des meilleures, à mon sens, choses qui peut être faite. Puis là, on tombe dans un contexte de mobilisation sociale qui s'est pas tellement vu dans les dernières années aux États-Unis. Fait que c'est peut-être le temps qui se restructure, que ça renaisse ces mouvements-là grassroots, là, de partir de la base et de remonter l'inquiétude que tous ces gens-là aux États-Unis qui vont se retrouver être floués dans l'expérience puissent au moins faire valoir leur point de vue puis qu'on l'entende, parce que je trouve qu'on n'entend pas beaucoup. Surtout considérant l'étendue des dommages que nous, on est capable de percevoir.
Mais pour suivre un peu là-dessus, on revient sur le fait que nous, en tant que personnes, que c'est quand même une part de notre job de suivre ce genre de choses-là, on est déstabilisé parce que c'est trop dur à suivre. Je pense qu'on l'a dit trois fois depuis le début de l'épisode. Je parlais en fait d'un concept qui s'appelle le shock doctrine, qui est élaboré dans un livre de Naomi Klein d'ailleurs. Puis dans les faits, c'est une tactique de nous overwhelmer comme ça avec toutes ces nouvelles-là constamment, parce que ce qui se passe justement, c'est pour limiter la mobilisation. Parce que le point en fait, c'est que c'est introduit réforme par-dessus réforme, tu inondes les nouvelles, tu rajoutes des scandales, tu mens, tu rajoutes des trucs pour que les gens soient un peu en état comme des petits cerfs sur l'autoroute là, en panique. Puis pendant que les gens sont trop désorientés pour réagir proprement, ben c'est là que tu passes les choses parce qu'il n'y a personne pour t'opposer. Puis c'est un peu ça, je pense, qu'on voit en ce moment, le point de justement constamment, tu sais, à chaque jour, je me dis, mon Dieu, ils peuvent pas dire pire, ils peuvent pas faire pire que ce qu'on vient de voir. Je suis toujours étonnée, il y a toujours de quoi de plus choquant qui apparaît, mais ça fait partie de la stratégie pour que les gens aient pas l'espoir ou aient pas la capacité de réagir. Fait que peut-être justement ce que tu nous disais au départ, que tu essayais d'éviter justement ce bruit-là, c'est probablement la meilleure stratégie en fait, puis de focusser vraiment sur un élément à la fois, puis de se recentrer pour pouvoir éventuellement se mobiliser puis aller se soulever en tant que peuple, disons, surtout du côté américain. Pourquoi est-ce que tu ris ça? Pour justement éventuellement se mobiliser. Fait que pourquoi tu souriais, Sam?
Je sais pas. C'est difficile de se concentrer sur une chose. Puis tu sais, je pense que c'est Steve Bannon qui était dans la Maison Blanche au premier mandat. Il s'est fait tasser, il a fait de la prison, il est pardonné, il est revenu. C'est un gars qui a lu beaucoup, genre Julius Evola, là, qui est un fasciste italien. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que le véritable ennemi, c'est les médias. Puis la façon de contrer cet ennemi-là, c'est de flood the zone with shit. C'est d'inonder la zone avec de la merde pour qu'ils puissent pas traiter tout ce qui se passe. Puis qu'à ce moment-là, t'as des niaiseries genre le Groenland va devenir le bleu, blanc, rouge land, puis le Gulf of Mexico qui devient le Gulf du Mexique qui devient le Gulf de l'Amérique. C'est des choses un peu insignifiantes, mais en tout cas.
Je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis comme toi, t'es plus dans les médias que, en tout cas, du moins moi. C'est pas aux médias faire la part des choses, de filtrer justement la quantité de choses qui leur arrivent en pleine face et de ne pas relayer ce qui est non pertinent. Disons, on va le 51e État, le Groenland, toutes ces nouvelles-là, le Panama, sont un peu dans cette zone-là. Et de laisser que les humoristes en parler et de pas en parler dans les médias de masse comme CNN ou Fox vont le relayer parce que bon, il y a des affinités. Mais au-delà de Fox, ce serait pas aux médias moins à droite de dire ben on va dorénavant ignorer des choses qui n'ont pas de valeur réelle et justement qui vont servir de première étape de filtrage pour éviter de nous inonder puis justement de laisser au peuple l'occasion de voir un peu la lumière.
Ben, je pense que c'est pas tout le temps facile de savoir qu'est-ce qui est de la boîte et non. Par exemple, le 51e État, c'est-tu sérieux, c'est pas sérieux, mais tu sais, quand la Chine dit la même chose à propos de Taïwan, on prend ça très au sérieux. C'est un pays qui dit l'autre pays va, ben, ça devrait être mon pays, là. C'est comme quelque chose qui normalement ne se fait pas dans la géopolitique, là. Mais c'est vrai, puis on voit quand même, j'ai l'impression, que dans les premières semaines de cette administration-là, c'est beaucoup des médias plus petits puis plus indépendants. On a vu Brian Krebs sortir des nouvelles, on a vu 404 Media sortir des nouvelles, Wired. Wired, c'est les premiers qui étaient sur Doge à sortir des nouvelles sur, ils ont accès à tel système, alors que New York Times, on dirait, là, essayait de rattraper parce que eux autres, se sont un peu encore essayé de dilait que la présidence comme une présidence habituelle. Là, tu sais, comme, ben, ce qu'il dit dans sa conférence de presse, faut qu'on la relaie parce que c'est, alors que oui, je pense que oui, il y aurait un travail de filtre à faire, peut-être de dire, ben, regarde, parlez, puis nous, on va parler de ce qui est important.
Ouais, parce que pas toute nouvelle est bonne à relayer dans un univers dans lequel on est, les choses ont changé, puis en sens, comme tu mentionnes, c'est pas une présidence normale. Dans une présence normale, les messages qui sont communiqués par la Maison-Blanche doivent être en général relayés parce qu'ils ont une valeur certaine. La Maison-Blanche qu'on a présentement va faire du bruit que pour le bruit, puis un peu revenir à vos deux. Les deux façons que vous avez mentionné exactement le même concept, c'est bombarder les gens, puis on va à la prochaine crise. Puis Trump, c'est le cynisme qu'il fait, c'est qu'on navigue d'une crise à l'autre, et quand une crise s'apaise, il la ramène. Donc, si on arrête d'en parler, il va le ramener parce qu'il veut ramener la crise. Fait qu'il y a peut-être quoi 15 crises, puis il cycle à travers ces 15 crises-là. À un moment donné, si les médias arrêtaient d'en parler, on aurait moins de panique, puis on pourrait se concentrer justement sur le fait de c'est très dommageable ce qui est exécuté, de laisser le vrai message émerger et non de le faire perdre dans une masse immense d'informations.
Oh, point. All right. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce sujet. J'ai l'impression que dans les, si on se fait un épisode 2, 3, éventuellement, ça va revenir définitivement. Donc, je propose qu'on passe un peu à l'autre, qu'on s'en garde pour d'autres épisodes, en fait, de Doge. Et puis, dans les notes, tu voulais nous parler, en fait, dans l'encryption end-to-end et de quelque chose qui se passe de l'autre côté de l'océan.
Oui, le gouvernement britannique aurait forcé ou est en train d'essayer de forcer Apple à ouvrir son chiffrement bout en bout qui protège les données qui sont protégées dans ses systèmes, dans les communications et dans le stockage qu'ils ont. Donc, il y a eu ça, ça a fait du bruit un peu. Selon ce que j'en comprends, Apple n'avait pas le droit d'en parler. Il y aurait eu un lanceur d'alerte qui aurait intervenu, qui aurait fait fuiter l'information comme quoi le gouvernement britannique mettait beaucoup de pression sur Apple pour qu'ils mettent une porte dérobée, une backdoor dans ses systèmes pour que le chiffrement soit non efficace ou que le gouvernement britannique puisse être capable d'aller voir les informations. Où le bas blesse, entre autres, c'est que ça n'a pas de limite régionale. Donc, c'est cette capacité-là pour le gouvernement britannique qui est partout à travers le monde. Donc, ça ouvre une porte immense sur la capacité du gouvernement britannique d'accéder aux informations de quiconque sur la planète basé sur un mandat qui est émis en Angleterre. De ça, là, encore une fois, tous les spécialistes en sécurité habituels se sont insurgés parce que c'est un énorme problème de faire ce genre de choses-là. Ça fait des années qu'aux États-Unis, les forces de l'ordre mettent beaucoup de pression pour arriver à ce genre de choses-là, sans succès, heureusement. Et donc, on avance avec ce dossier-là. Encore une fois, c'est encore un élément dommageable. Il y avait ça, ce côté-là, en Angleterre, du côté de l'Union européenne aussi, il y a des tentatives d'aller dans cette direction-là, de mettre des backdoors dans les systèmes de chiffrement pour avoir accès à l'information. Puis il y avait eu certains cas très médiatisés, puis tu sais, ils vont utiliser des cas très spécifiques qui peuvent faire appel à l'émotion des gens pour justifier les gestes qu'ils posent. Coup de théâtre, deux sénateurs américains des deux partis, donc c'est un cas biparti, veulent réouvrir le Cloud Act aux États-Unis pour justement ensacher dans la loi la protection des chiffrements bout en bout. Ce qui était un peu intéressant parce qu'aux États-Unis, pendant longtemps, ils ont eu beaucoup de pression pour ne pas puis ouvrir les valves de ce côté-là. Mais j'ai l'impression que le fait de voir qu'un gouvernement étranger essaie d'avoir autant de capacité que le gouvernement américain de fouiller dans les affaires de tout le monde, les a un peu effrayés, heureusement, dans le fond, parce que là, ils se sont rendus compte que quand on ouvre cette boîte-là, tout le monde peut aller voir dans la boîte, incluant les autres pays. Là, l'Angleterre, c'est un Five Eyes, c'est pas si paix, mais si on parle dans des pays plus hostiles, on parle de la Chine, on va parler de l'Iran, on va parler de la Russie, actuellement, qui sont des pays qui sont beaucoup plus hostiles à l'Occident, donc vont avoir une capacité potentielle de rentrer. Et ça, aux États-Unis, dans un temps où les portes dérobées dans les systèmes de télécommunications ont été infiltrées par les Chinois. Donc, ces portes-là ont été mises il y a très, très longtemps. Il y avait une loi qui encadre justement le fait que les forces de l'ordre américaines ont la capacité d'écouter les communications qui passent en sol américain. Et là, c'est infiltré. Donc, d'avoir ouvert cette porte-là, là, les gens se rendent compte, donc, du moins les législateurs se rend compte du danger associé à ce genre de choses-là. Donc, elles sont en train de backtracker, de retourner en arrière sur leurs convictions anciennes et donc de venir vraiment fermer, une fois pour toutes, j'espère, ce débat-là qu'on ne veut pas avoir puisque la sécurité de nos communications est probablement fondamentale à toute la confiance qu'on a à travers Internet. Sans celle-ci, on ne peut pas vivre, on peut avoir de transactions, on ne peut rien faire. On se retrouve dans un état policier dans ce contexte-là, vraiment. Et à ce moment-là, on est dans un autre univers. Et de l'autre côté, puis en même temps, je comprends, puis c'est pas la première fois que je le mentionne, que les forces de l'ordre, la police, les services de renseignement veulent avoir cet accès facile-là. Mais pour moi, puis c'est là où je suis un peu dans l'incompréhension, avant, on n'avait pas ces moyens-là. Les forces de l'ordre étaient très efficaces. Pourquoi maintenant, sans ça, ils ne sont pas efficaces? Fait que je comprends un peu moins bien leur prétention de perte d'efficacité. C'est sûr qu'ils n'ont pas accès aux derniers outils, ils n'ont pas les accélérateurs, ça je comprends, mais ils étaient très, très capables de faire du très bon travail avant avec de l'infiltration, et puis ils en font encore là, avec des faux téléphones, avec des choses, ils ont des belles capacités techniques, puis pour moi c'est un raccourci qui est dangereux d'ouvrir cette porte-là, et je suis étonné, mais agréablement surpris que les Américains vont devenir probablement les porteurs de ce changement-là qui va avoir nécessairement une influence sur le restant du monde. Mais avec un changement, avec un contexte géopolitique au moment où on enregistre incertain, les factions sont différentes. On peut pas, peut-être moins présumer comme avant que les autres pays vont réagir de façon attendue, puisque là, l'ordre est clairement renversé. Il y a quelqu'un qui a donné un coup de pied dans le jeu de cartes. Là, on comprend plus ce qui se passe. On essaie de trouver quelle carte va où.
Mais c'est intéressant que tu mentionnes justement la surprise que les États-Unis deviennent tout d'un coup les porte-paroles à la défense de l'encryption end-to-end, parce qu'il n'y a pas très longtemps, je me souviens dans le balado de Supercitoyen, on parlait du Restrict Act, entre autres, puis de tous les potentiels loopholes, parce que c'est un projet de loi qui est hyper vague puis qui ouvrirait plein de portes potentielles à laisser le gouvernement fouiner un peu dans les communications d'applications qui jugent être un problème de sécurité nationale, donc c'est très, très vague. Il y avait le EARN Act aussi, qui avait pas passé, mais qui avait été discuté, je pense que c'était 2020 quelque chose, qui limitait un peu l'utilisation d'encryption end-to-end. Fait que, dans les courtes dernières années, la position était complètement à l'opposé. Là. C'était le gouvernement américain est en train d'essayer de se faire passer des projets de loi pour se donner des petites portes justement dans ce genre de d'applications là qui utilisent l'encryption end-to-end. Puis là, tout d'un coup, ils sont comme « Oh non, attends, c'est peut-être une mauvaise idée. »
En même temps, c'est un gouvernement étranger qui cible une compagnie américaine.
So rules for the...
Je pense que les Américains seraient beaucoup plus favorables à un accès que eux contrôleraient de ces compagnies-là, mais laisser ça à quelqu'un d'autre. Dans un contexte où, tu sais, tes alliés sont peut-être moins tes alliés qu'ils l'étaient deux semaines avant. Là.
Ça va être pas quand tu menaces tout le monde de les envahir.
Mais tu sais, c'est, en même temps, je suis content de voir ça parce que même si, on va dire, là, dans le meilleur des mondes, que la police en avait vraiment besoin et tout ça, puis que, tu sais, il l'utiliserait seulement à bon escient, puis jamais comme, tu sais, il exagérait tout ça, c'est quand même difficile d'avoir une porte arrière qui est juste pour toi. T'sais, une fois que tu as mis la porte, elle est là. Et c'est sûr que d'autres personnes vont essayer de la trouver, puis éventuellement, quelqu'un va réussir à y accéder. Puis on c'est ça, on détruit le principe même du chiffrement de
ouais, puis l'histoire nous montre que même si on a de bonnes intentions, ça prend pas très longtemps avant que celle-ci se vienne viciée par d'autres choses, par d'autres objectifs, et ils vont se transformer à travers le temps. On le voit dans différents contextes. Fait, juste d'un point de vue historique, c'est très dangereux. C'est difficile à justifier sur la place publique ce genre de choses-là. Comme quoi les gouvernements vont invariablement utiliser ça pour pas les intentions d'origine qui étaient là. Et de toute façon, puis comme tu le mentionnes, une porte dérobée va être utilisée. Les Chinois l'ont fait avec les systèmes de télécommunications américains. Il y a pas très longtemps, ça a été découvert à quel point les Chinois avaient construit mur à mur ces systèmes-là. Donc, puis c'est peut-être également pour ça que les Américains sont plus sensibles présentement, parce qu'on a vu que les Chinois étaient rentrés sauvagement chez eux. Et c'est pas un de ces mécanismes-là qui permet justement de dépier les conversations téléphoniques dans ce cas-ci au niveau américain.
Oui, puis tu parlais, tu sais, ça va tant que justement c'est pas abusé du gouvernement, mais tu sais, justement le Privacy Act, qui est la acte en ce moment qui est utilisé par l'Electric Frontier Foundation, entre autres, pour poursuivre Musk sur le projet Doge. C'est le petit début de l'épisode. Cet acte-là avait été créé suite à l'abus du président Richard Nixon qui avait utilisé les ressources gouvernementales pour espionner des ennemis politiques, les intimider, etc. Fait qu'il y a des cas historiques il y a pas si longtemps dans l'histoire même américaine où est-ce qu'il y avait eu ce genre d'abus-là qui avait mené éventuellement à justement un encadrement là, autour de ce genre de backdoor-là puis le droit à cette vie privée-là. Donc, définitivement.
Ouais, puis du fait que là, on voit, en tant du moins comme Canadien, qu'on a un président américain qui est instable, qui piétine l'amitié qu'on a toujours eue avec les Américains. Donc, on ne peut plus même pas se fier à un allié qui était pourtant qu'on croyait fiable, stable et prévisible. Ça va être imprévisible. Donc, les données des Canadiens qui sont des États-Unis à l'heure actuelle, sont pas tant bien protégés puisqu'on fasse face à un gouvernement qui ne respecte plus les règles et qui ne respecte plus son amitié de très longue date avec le Canada. Donc, on se retrouve dans un contexte où tout change, les choses changent trop vite et en ce moment, on se retrouve dans un contexte qui est très difficile. Donc, de se retrouver comme ça avec quelqu'un quiconque à avoir la capacité de fouiller toutes les communications de tout le monde, c'est très, très inconfortable parce qu'on ne sait jamais à quel moment un gouvernement peut changer de bout en bout et sa nouvelle stratégie ou ses nouvelles approches sont contraires à les droits et libertés dans lesquels on est habitué de vivre, dans lesquels on chérit.
Prochain sujet. Celui-là, c'est un peu un sujet double. En fait, c'est un sujet qui nous emmène vers un autre sujet. Un truc que j'ai vu passer, puis là, tu sais, on parle beaucoup de fraude, en fait, de façon générale. Je trouve que la cybersécurité et la fraude en ligne, c'est des sujets qui sont très proches l'un de l'autre. Puis, c'est un article qui était paru justement sur Wired qui a fait un spécial sur Valentin, en fait, qui est, ma foi, passionnant. Si jamais vous vous ennuyez d'acheter des magazines physiques, d'ailleurs, ça vaut 100% la peine celui-là. Puis, il abordait justement le fait que la crise de solitude que le monde global ressent, en fait, est un enjeu de sécurité. Puis, ils ne font pas juste dire ça pour faire un statement choquant. Ils arrivent avec des receipts, là, des preuves, puis de pourquoi est-ce que cette justification existe. Puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils explorent justement le lien entre cette solitude puis ce sentiment-là que les gens ont d'isolation, puis comment ça les rend plus à risque d'être victimes ensuite de fraudes, entre autres des fraudes amoureuses. La solitude, c'est 100% là, un facteur de risque, là, d'être isolé socialement, ça nous met plus à risque. Il y a d'autres facteurs. L'insécurité financière, qui est définitivement quelque chose de global aussi, je pense, en ce moment. Je pense que financièrement, il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont un peu plus inquiets que d'habitude. Il y a l'isolement, il y a l'incertitude au niveau sociétal. Tout ça, c'est des choses qui vont augmenter, en fait, nos facteurs de risque. Puis, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en risque. Je regardais les données, puis c'était les groupes, en fait, qui étaient le plus à risque de se sentir seuls. C'était le groupe âgé entre 30 et 44 ans. C'est le groupe qui se sent là à pratiquement le tiers, se sent fondamentalement très seul. Puis ça m'avait surprise parce que quand on pense qui est seul, qui se sent seul, on aurait tendance peut-être à plus penser à des personnes âgées. Et dans les faits, c'était le groupe qui avait le moins haut taux d'isolement social qui était rapporté avec seulement 10%. Bon, 10%, c'est quand même beaucoup. Mais par rapport au tiers, là, dans la tranche d'âge de 30 à 44 ans. Puis ensuite, ça sautait là, un peu aux plus jeunes là, qui se sentent aussi très seuls après ça. Et puis, il y a aussi, on parlait d'insécurité financière qui rajoute un facteur de risque. Comme de fait, en fait, les gens qui rapportaient pour des revenus de 30 000 $ et moins annuels se sentaient beaucoup plus seuls que les gens qui rapportaient des revenus à plus de 100 000. Est-ce que c'est l'argent qui fait le bonheur? Peut-être pas. Peut-être que les gens qui se retrouvent en situation d'insécurité financière ont tendance à peut-être avoir moins le temps ou les moyens d'avoir des hobbies, d'aller voir ses amis, etc. On sait qu'il y a une disparition des troisième places dans notre société. Donc, sortir, aller voir tes amis, ça coûte de l'argent. Donc, c'est sûr que si en plus, tu te sens seul puis t'as pas les revenus pour avoir des hobbies, mais ça exacerbe un peu cette crise-là. Et ce qui se passe, mais c'est que les gens qui se sentent seuls se retrouvent à essayer de chercher du companionship, des gens à qui parler en ligne. Et c'est là qu'ils se retrouvent exposés à tout ce qu'on entend parler au niveau des fraudes amoureuses, puis des fraudes qu'on n'aime pas le nom, qui s'appelle les pig butchering scams, que please, par pitié, quelqu'un a trouvé un autre nom pour ce stratagème de fraude-là, parce que c'est pas... On veut pas victim blame un peu les gens puis les appeler des cochons écorchés. C'est pas. Mais bref, le point, c'est que les gens sont vulnérables. Puis, il y a vraiment un enjeu par rapport à ça. Parce que sur le dating app, il n'y a pas grand chose qui est fait en ce moment pour freiner ces stratagèmes de fraude-là. Les scammers sont peu en toute impunité, là. Ils contactent des gens, etc. Puis, ce qui se passe, c'est ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les scammers, en fait, une fois qu'ils ont ciblé quelqu'un, ils vont essayer de la recibler avec les informations. Fait que, tu sais, mettons, t'arrives sur un premier cas, la personne te parle, ils vont utiliser un peu les IA initialement pour essayer d'animer le plus d'informations et chercher le plus d'informations possible en utilisant des scripts. Peut-être que la première scam ne marchera pas, mais éventuellement, tu vas marcher avec quelqu'un puis cette personne-là va avoir rebâti un profil sur toi. Puis les scams se raffinent puis éventuellement, tu te fais cibler puis t'es à risque de tomber dans une fraude comme ça. Puis ce qu'on sait, c'est qu'au niveau financier et psychologique, c'est parmi les fraudes qui sont le plus dévastatrices pour les victimes. Donc, les gens ont tendance à perdre beaucoup plus d'argent, donc à prendre plus de temps à réaliser qu'ils se font frauder. Mais également, une fois que l'impact est réalisé, émotionnellement, c'est complètement dévastateur. Puis, tu sais, il y a des cas là, qui vont jusqu'au suicide. Parfois, de gens qui sont tellement atteints psychologiquement puis émotionnellement par le fait d'apprendre qu'ils ont été victimes de ce genre de fraude-là, qu'ils décident de mettre fin à leur jour. Bref, la crise de solitude, c'est plus que juste un enjeu solitaire, c'est carrément un enjeu de cybersécurité.
C'est un enjeu très important pour... Puis ça, j'en ai vu des cas autour de moi, de gens qui, justement, probablement devaient vivre un cas de solitude. Ça ressemble beaucoup à ce pattern-là. Et il y a des gens qui ont essayé de leur faire entendre raison, leur expliquer qu'il est en train de se faire rouler. Et ces gens-là sont tellement en détresse par leur solitude qu'ils n'écoutent même pas le peu d'entourage qu'ils ont, qui essaient de les protéger contre cette situation-là. Il est inefficace pour les aider à ne pas tomber dans le piège de ces fraudes-là et des amener ailleurs. Donc, ces gens-là sont vraiment bons pour appuyer sur les douleurs de la solitude chez les gens pour justement les faire réagir. J'ai pas entendu de moyens encore efficaces pour lutter contre ce genre de choses-là qui est une très grande tristesse. Déjà que la solitude est une très grande tristesse en soi. Si ces gens-là se font abuser en plus de parce qu'ils sont seuls et qu'ils ne veulent plus l'être, notre société s'effondre en termes de valeurs fondamentales. C'est l'humain est grégaire, on a besoin des autres pour vivre. Donc, si on n'est plus capable d'avoir confiance aux autres, parce que c'est moindrement qu'on est là, je trouve ça d'une tristesse infinie. Là.
Effectivement, puis tu as raison, il n'y a pas de solution magique. Comment est-ce qu'on résout la crise de la solitude? Je pense pas que c'est quelque chose qui se fait du jour au lendemain, définitivement.
Je trouve que c'est vraiment une impasse qui est très difficile. Puis on n'a aucun moyen, en tout cas à ma connaissance. Puis c'est là où il faut voir comment, comme groupe, comme société, qu'on est capable de venir limiter ou empêcher ces gens-là de tomber dans des pièges de base. C'est peut-être que ça va prendre du temps. Il y a une époque où on avait des princes nigériens qui avaient des fortunes à transférer, qui attrapaient des gens. Ça a pris du temps avant qu'on arrête d'entendre de ces histoires-là parce qu'il y avait toujours des gens qui se faisaient prendre. Donc, le stratagème va durer jusqu'à temps qu'il y aura des gens qui vont se faire prendre. Donc, ce stratagème-là va durer jusqu'à temps qu'il y aura des gens qui vont tomber dedans. Il y a peut-être une capacité peut-être des forces de l'ordre de venir intervenir puis d'avoir des effets punitifs suffisamment forts pour décourager les gens de le faire. Et puis là, ça va demander aux victimes, puis ça aussi, c'est difficile, d'aller déclarer qu'ils se sont fait frauder. Puis la honte de s'être fait frauder, surtout pour des gens seuls, doit être immense. Donc, à ce que je sache, il y en a peu qui vont aller porter plainte officiellement, même si ça n'a pas d'effet réel, immédiat, mais ça a un effet de masse. Donc, plus il va en avoir, plus les ressources vont être déployées pour limiter et bloquer ce type d'attaque-là. Mais je trouve ça infiniment triste, ça. C'est triste, terrible. Oui.
Mais tu parlais justement de la pointe, le fait que les gens n'osent pas aller faire déclaration. Je sais que les chiffres qu'on a en ce moment, c'est 5 à 10% seulement des victimes de fraude qui vont justement oser aller porter plainte de ça. Puis, c'est un peu une parenthèse, là, mais justement, tu sais, dernièrement, dans l'actualité, il y a une dame qui a osé porter justement, aller expliquer qu'elle avait été victime d'une fraude amoureuse. Puis la réaction des médias puis des gens, ça a été de moquer cette personne-là pour avoir été victime de fraude, alors que fondamentalement, c'était extrêmement courageux de sa part de dire « Hey, je sais que ça a l'air nono, mais je pensais vraiment que j'étais Brad Pitt, puis je me suis fait scammer d'une fortune, puis j'aimerais ça que les autres soient protégés. » Puis elle a été rencontrée avec du mépris puis des moqueries, alors que dans les faits, essentiellement, c'était brave de s'exposer à visage découvert puis de dire « Qu'est-ce qui s'est passé pour protéger d'autres? »
Oui, parce que pour cette femme-là qui en a parlé, il y a 100, 200, 300 autres personnes à qui la même histoire est arrivée qui
l'ont fait. Mm-hmm. Oui, puis ce que les gens oublient, puis c'est pour ça que les gens se sont moqués de cette histoire-là, puis C'est ça, d'un point de vue pur, froid et rationnel, effectivement, la femme n'a pas fait preuve de discernement quand les choses sont arrivées, parce que avec un pas de recul, on le voit que c'est une fraude, on voit que c'est grossier comme fraude. Cependant, quand on est pris dans un cercle de solitude, qu'on ne voit que ça, qu'on n'entend que l'écho de nos propres pensées, ça devient beaucoup plus difficile de discerner ce genre de fraude-là, même si en apparence, dans ce cas-ci, c'était grossière. Quand on est dedans, on la voit pas, parce qu'il y a tout un préambule qui prépare la personne à croire le mensonge et à accepter le mensonge. Et quand tu parles de pig butchering, c'est un peu ça, c'est de préparer la personne, de l'assaisonner, puis ensuite de l'amener. Fait que c'est un jeu psychologique qui se fait. Donc la personne, elle n'est pas imbécile, elle n'est pas niaiseuse, elle s'est juste faite en prendre dans le mécanisme psychologique dans lequel elle s'est faite prendre, puis dire... On peut rire, là, mais à l'heure actuelle, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est un peu ça aussi qui se passe, cette espèce de jeu psychologique qui se joue, puis les gens sont un peu moins, ils sont moins ridiculisés. Enfin, c'est des jeux comme ça, puis c'est fragile, l'esprit humain, et on l'oublie souvent à quel point tout ça, puis les gens se faisaient avoir par la fraude nigérienne, on la regarde maintenant, on rit, on trouve ça drôle. Mais à l'époque, c'était, les gens se faisaient avoir parce qu'ils croyaient vraiment. Il y avait comme une espèce d'élément, puis même c'est grossier, la fraude nigérienne. Il y a des gens qui se faisaient avoir.
Oui, mais il y a des gens qui, si t'as rien à perdre, des fois, de croire, c'est juste pourquoi
ça
pas.
Ça fait du bien.
Oui, c'est ça.
Ça fait du bien à l'âme. C'est cette personne a peut-être besoin justement de sentir qu'elle faisait du bien à quelqu'un, qu'elle contribuait. Bon, OK, Brad Pitt à l'hôpital qui a des problèmes financiers, on repassera. Mais ça lui a fait du bien. Elle a eu l'impression de contribuer, de sortir de sa solitude, tout ça. Puis ça revient. C'est ça la tâche. C'est ça l'hameçon qui a été pris. Et c'est pas ridicule que la personne ait mordu, parce que quand on va dans le renseignement, c'est ça les stratégies pour aller chercher l'information, pour trouver les points faibles des gens. Fait, c'est exactement ces stratégies-là. Mais là, c'est au grand jour. Puis là, on ridiculise un peu. On n'est pas sorti du bois.
Effectivement. Puis, c'est sûr qu'il y a peut-être une responsabilité aussi au niveau des applications. On sait que beaucoup de ces fraudes-là commencent d'ailleurs sur des dating apps. Puis Sam, d'ailleurs, tu voulais nous parler d'un autre cas qui n'est pas exactement celui des fraudeurs, mais d'un cas où est-ce que les applications de dating avaient peut-être façon de protéger leurs utilisateurs, mais qui ont choisi en fait de peut-être pas le faire.
Je pense qu'on peut dire clairement ils ont choisi de pas le faire. Là, on peut même enlever le peut-être dans cette histoire-là. D'ailleurs, petit avertissement, cette histoire-là, on parle de violence sexuelle. Donc, c'est un sujet que vous préférez éviter, peut-être faire fast-forward un petit peu. Donc, c'est ça, c'est une histoire qui a été publiée cette semaine. Puis, je trouve que c'est vraiment un beau travail de journalisme de sortir ça. C'est une revue qui s'appelle 19th News. Ils ont travaillé avec The Guardian et d'autres organismes. Donc, c'est un truc collaboratif là, pour sortir ça. Puis j'ai appris qu'il y avait du big dating. Je savais pas. Donc, Match Group, c'est l'entreprise qui possède plusieurs applications de sites de rencontres. Donc, Tinder, Hinge, OkCupid, Plenty of Fish. Je pense qu'ils contrôlent à peu près 50% là, du marché des applications de rencontres. Puis, l'article parle de l'histoire d'une femme qui a rencontré un jeune et joli docteur qui l'a invité chez eux, puis qui l'a drogué. Elle a heureusement réussi à se sauver. Mais le côté un peu révoltant dans cette histoire-là, c'est que 4 jours avant, il y avait une autre femme qui avait signalé ce même Stephen Matthews de son nom, qui a été arrêté, accusé, condamné à 150 ans de prison, hein, quelque chose comme ça, là, aux États-Unis. Mais 4 jours avant, il y avait une autre femme qui l'avait signalé pour viol à l'application. Et puis, on a su par après là, que finalement, il y avait comme une dizaine, 10 à 15 femmes qui avaient été agressées puis qui avaient rapporté les agressions là, à la compagnie en disant « Regarde, cette personne-là, moi, j'étais sur une date avec, puis ça a mal tourné. » Puis que la personne était capable de continuer à avoir son compte. Les journalistes ont même créé des comptes sous des noms fictifs. Ensuite, ils ont signalé ces comptes-là comme étant des abuseurs, pour ensuite noter que même si leur compte se faisait temporairement ou se faisait supprimer, ils étaient capables d'en recréer un avec la même photo, le même nom, les mêmes informations sur l'application, mais par exemple sur Tinder, mais sinon ils pouvaient aller sur Hinge ou sur OkCupid ou sur un autre avec les mêmes informations, tu sais, même pas essayer de cacher quoi que ce soit. Puis il y a les journalistes aussi eu accès à des tonnes de documents internes. C'est fun quand des lanceurs donnent des documents. Puis là, on voit des choses un peu comme, tu sais, ils parlaient de vouloir faire un Transparency Report, je sais pas c'est quoi la traduction. Rapport de transparence. Il avait promis en 2020, on est en 2025, ils l'ont toujours pas fait. Puis il y a certains documents internes, on voit des présentations que les gens se posent des questions, genre, est-ce qu'on met juste ce qui est requis par la loi? Est-ce qu'on est obligé de tout mettre ce qui est requis par la loi? Est-ce qu'on devrait mettre un petit peu plus? En tout cas, en train d'essayer de voir un peu comment, parce que ces informations-là sont collectées. Ils ont un système qui s'appelle Sentinel qui collecte ces données-là. C'est juste que d'agir dessus, ben, ça nuisait un peu à la rentabilité de l'entreprise. Fait que, disons qu'ils se sont traînés les pieds, là, sur la mise en place. Fait que, une histoire assez révoltante, je dirais. Mais je pense que c'est important qu'on en parle parce que, tu sais, on serait en mesure de s'attendre à être en sécurité quand on utilise ces applications-là. Qu'il y ait un, tu sais, je peux comprendre que l'application peut pas être responsable à 100% de tout le monde, mais si je te dis que...
Oui, en fait, c'est que la fonction de report est... C'est, je veux dire, c'est là, c'est que tu assumes comme utilisateur qu'elle sert à quelque chose. Que si tu peux report quelqu'un comme étant un agresseur éventuellement, que comme...
Ouais, mais c'est juste...
si c'est fréquent.
Ouais, c'est juste stocké dans une base de données en COBOL puis personne ne la regarde, ça ne sert à rien.
Mais c'est un peu troublant de voir ces systèmes-là. Puis là, tu parlais du big dating ou du big pharma, peu importe, ces compagnies-là, dans un monde où l'information est probablement l'élément le plus important qui collecte. Bon, on revient toujours à la collecte des données, tous ces grands groupes-là collectent des données sur tout le monde. Donc, ils ont la capacité de voir et de détecter avec l'AI. Maintenant, ils seraient probablement capables d'anticiper qu'un profil aurait potentiellement l'élément d'un agresseur. La quantité de données qu'ils ont accès, ils seraient déjà capables de même prédire ce qu'on s'en vient. Donc, de mettre des mises en garde préalables pour s'assurer qu'on ait la protection des gens. On a eu le même scandale en pornographie où les contrôles qui étaient mis en place pour limiter les vidéos illégaux n'étaient pas vraiment très en place parce que ça nuit à la rentabilité de la business. Donc, on est dans des situations où ces grands groupes-là puis se fuient ensuite leurs responsabilités assez facilement, mais ils ont accès à énormément d'informations, là. C'est un dans le monde du dating, c'est épouvantable l'information qu'ils doivent avoir sur les gens, les préférences. Ils doivent pouvoir être capables de profiler quiconque. On n'a même plus besoin de répondre à 15 questions pour savoir qui on est et qui on veut dater. Je suis sûr qu'ils doivent déjà avoir des engins qu'ils font déjà pour eux. Puis ils doivent probablement mettre devant nos yeux des profils qui ont le plus de chances d'arriver aussi. Ils
sont déjà rendus là. Sur ce genre de dataset-là dans mon autre vie, quand j'étais en marketing, je te confirme que oui. Il y a le concept d'un Elo score, en fait. Comme sur les gaming apps. Ouais. Quand tu games en ligne, t'as un Elo score, right? Fait que t'es raté par rapport à d'autres gens. Si tu gagnes contre quelqu'un qui est poche, ça monte pas dans ton score. Si tu perds contre quelqu'un qui est poche, ça le baisse dramatiquement. Il y a comme cette version-là de ça sur les dating apps, mais hyper plus complexe. Puis oui, effectivement, là, les premières choses que tu vois sur l'application, c'est pour établir ton profil, les premiers profils sur lesquels tu swipes. Puis après, t'es classifié, ils ont toutes ces données-là. C'est incroyable, les datasets qui sont en fait sur les gens, je te confirme.
Oui. Là, j'ai encore plus de difficultés à comprendre qu'une compagnie a volontairement fermé les yeux avec la quantité de données qu'ils ont. En plus, il y a des gens qui signalent, qu'on pourrait se prétendre que des fois, il y a des signalements qui ne sont pas justifiés. Ça arrive. Des fois, il y a des gens qui veulent juste se venger ou des choses comme ça. Mais en général, c'est pas la majorité. Ça, c'est vraiment une très petite minorité. Puis même si on est capable de le détecter assez rapidement, des gens qui font juste se plaindre pour se plaindre versus des peines qui sont fondées donc contre un individu qui pourrait être considéré comme un prédateur dans le cas que tu rapportes. Fait, moi, je suis ça déplorable. Là.
Mais c'est pas la première fois qu'on a des plateformes comme ça où est-ce qu'ils sont capables de détecter des patterns de comportement puis qui décide de rien faire ou pire, d'alimenter le problème. Je pense entre autres à l'époque à Amazon qui avait été critiqué pour vendre des kits de suicide aux gens après avoir targeté qui étaient vulnérables psychologiquement. Yeah, tu sais, combien on va squeezer un dernier achat de mon utilisateur à place de proposer de l'aide ou d'alerter des gens par l'algorithme d'Amazon était capable de détecter cette personne-là, elle est vulnérable, puis à la place d'aider, ils vendent un truc.
Je vais faire un lien avec quand on parlait de Doge. Là, on a des jeunes qui rentrent dans le domaine, qui n'ont pas d'expérience de vie, qui ne sont pas capables d'avoir un sens critique encore parce qu'ils n'ont pas l'expérience suffisante. On leur met dans les mains de développer des systèmes et on arrive avec des éléments comme ça. Puis avec un goût du profit infini puis de rouler en Ferrari, c'est une situation qui est explosive fondamentalement. C'est-à-dire, moi, si je concevais un système comme ça, j'aurais toutes les préoccupations, sachant que j'ai des enfants, sachant tout ça. Fait, le système serait réfléchi parce que j'ai déjà un contexte humain. Le père de mon père, il y a très, très longtemps, il y avait une fonderie. Il n'embauchait que des hommes qui avaient des enfants. Parce que le fait, ces hommes-là étaient plus fiables que ceux qui n'en avaient pas. Fait, c'est un élément assez discriminant. Mais pour comme employeur, il s'assurait que les hommes ne rentraient pas chaud le matin, qu'ils rentraient tout le temps au travail et que ça lui assurait une productivité adéquate. Il y a des éléments comme ça, des places, on doit placer des gens avec une expérience de vie qui est préalable, puis qui les amène à des réflexions qui sont franchement très différentes. Puis je regarde mon moi avant d'avoir des enfants et mon moi maintenant, j'ai pas les mêmes réflexions, j'ai pas les mêmes réflexes, j'ai pas les mêmes vues sur le monde. Il y a l'âge qui a changé, mais au-delà de l'âge, mon expérience de vie est différente, m'amène ailleurs comme humain. Puis après ça, ben, je suis capable de le partager, puis j'ai mes réflexions différentes. Donc, si j'ai designé un système, déjà là, mon design serait différent. Que ça soit juste des personnes de 21 ans qui sortent de l'université, qui veulent beaucoup d'argent, qui veulent plaire, on n'est pas tout à fait dans le même range de réflexion.
Mais je pense que c'est surtout un argument en faveur. Puis je sais que c'est un mot tabou en ce moment. On n'a pas le droit de dire ça. Là. Puis je vais me faire canceller au premier épisode de notre crossover. C'est le mot diversité. Donc justement, c'est que ça prend de la diversité dans ces équipes-là qui bâtissent ces affaires-là. Parce que justement, tu as la gang de doutes qui ne voit pas le danger XY. Puis ça aide d'avoir une femme dans le qui va t'excuser. C'est vraiment brillant, là, comme t'as pas pensé à X, Y, Z.
Oui, c'est
ça. Et d'avoir, justement, tu sais, jeunes, des gens avec l'expérience, des gens, tu sais, qui, justement, sont capables d'aborder le problème de façon différente, c'est là que tu vas avoir une meilleure capacité à anticiper les problèmes puis à trouver des solutions, là, qui ont de l'allure.
Bref.
T'as l'air de douter, là.
Ben, en fait, c'est une des choses qui me tracasse, c'est le principe de comment... short-sighted? À courte vue, c'est parce que de dire « Ah, on peut pas bannir les utilisateurs problématiques parce que la rentabilité, alors que dans les faits, il n'y a plus aucune femme qui va aller sur ce dating app-là parce qu'ils sont pas en sécurité, ta rentabilité à long terme, elle sera pas là. » Il y a déjà des groupes qui existent justement de femmes qui sont sur des groupes Facebook à se partager des photos de comme ce dos-là, il est-tu problématique pour essayer de contrer justement ce manque de protection-là. Mais tu sais, ces groupes-là, ça vire rapidement en mode, ben voyons, je veux juste abandonner, point.
Ouais, mais...
Parce que c'est trop dangereux.
Ça revient là, un groupe de jeunes dudes, c'est sûr que c'est courte vue tout le temps. C'est comme ça qu'à ces âges-là, le manque d'expérience... Le goût d'avoir du profit rapide, d'avoir des éléments comme ça, puis s'en foutre, puis ensuite, ils vont livrer ailleurs. Fait que oui, effectivement, on est dans un univers comme celui-là, puis diversité, c'est nécessaire, parce qu'on va amener différentes facettes, là, c'est, même si on va se faire canceller dès maintenant d'avoir fait prôner des éléments de diversité, mais pas une diversité forcée, une diversité qui est utile, qui amène une valeur ajoutée, puis ça, j'y crois, là, énormément. Ça évite des dérapages comme celui-là, une gang de dudes trop contents, les tech bros, là, pour prendre ça, là, ou What Guy with a Podcast, ou tous ces univers-là de gens un peu centrés sur leur propre vie.
Mais oui, dans le cas des plateformes, effectivement, sachant qu'ils ont les données, sachant qu'ils savent toutes les choses qu'ils savent, il y aurait clairement une façon d'intervenir. C'est d'un manque de volonté. Là. Pareil pour les scammers. J'assume que ça garde les gens pendant qu'ils parlent à quelqu'un sur Tinder puis qui ont des matchs avec des magnifiques jeunes femmes qui n'auraient jamais espéré pouvoir dater et qui leur parlent puis qui leur chantent la pomme. Ben, ça les garde sur les dating apps. Fait que pour, mettons, n'importe quel dating app, c'est plus profitable de garder le scammer sur l'app que de la bannir.
Tout à fait.
Puis ça, c'est sans dire qu'il y a des profils, que c'est des robots en arrière qui ne font que maintenir des conversations pour justement maintenir les gens sur les apps.
Ça. Mais ça, on l'avait vu avec Ashley Madison, non? C'était pas un des trucs qui était ressorti de cette brèche.
Ça en était un qu'il y avait pratiquement pas de femmes sur Ashley Madison. C'était juste des hommes et des faux profils. Et là, de voir que tous ces gens avec des adresses du gouvernement s'inscrivent sur le site avec des adresses, pas des adresses perso, mais des adresses de la job, c'est comme, s'il vous plaît... S'il vous plaît, au moins, si vous voulez faire des affaires comme ça, faites-le qu'on ne sache pas. Là.
Ah là, mais en fait, ouais. On revient à la crise de solitude, en fait, avec tout ça, j'imagine, oui. Du fait qu'au final...
L'humain est grégaire. L'humain a besoin des autres.
Ça
demeure ça.
Est-ce que, avant de venir à l'émission, il y avait d'autres sujets que vous aimeriez couvrir?
Non, on a bien dérapé sur bien des sujets. Je pense qu'on a bien réussi. La mission est, je pense que c'est un succès.
Génial. Fait qu'on se revoit pour un prochain épisode dans pas trop longtemps, j'espère.
Absolument.
Merci aux gens du balado d'Espace.fr et de Polysécure d'avoir été avec nous aujourd'hui. On s'abonne, on partage, on met des 5 étoiles partout. À la prochaine.
On transmet la bonne nouvelle. Allez, plus.
Eh ben.